Ils sont là jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Christophe Bourgois, Costantini. Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez chez First. Et ça, Jonathan McCarty le sait, évidemment, depuis longtemps. Jonathan, bonsoir.
Bonsoir les gars, salut.
Tu nous rejoins pour parler de l'Argentine dans quelques instants.
Et la Colombie aussi.
Et la Colombie qui joue demain face à l'équipe de France. Et un peu le Brésil sur le même temps. L'équipe de France demain soir, je vous donne la compo les gars, parce qu'on l'a pas fait dans la première heure de l'after. Loris dans les buts, Umtiti Varane en défense centrale, Digne et Sidibé sur les côtés. Kanté, Matuidi devant la défense, une ligne on va dire de 3 là, Lemar, Griezmann, Mbappé, Giroud en pointe.
Non mais arrête avec cette ligne
Deschamps,
de 3,
c'est pas vrai. Justement, j'allais y venir. Voilà. Deschamps a expliqué en long, en large, en travers, arrêtez de dire que c'est un 4-2-3-1, c'est un 4-4-2 puisque Griezmann est plus devant. Enfin bon, ça se joue à quelques centimètres, on va pas chipoter.
Comme toi.
Pardon ?
Non, rien.
Sur cette compo, les gars,
comme on en a parlé tout à l'heure chez Duga, toi aussi j'imagine, Jérôme, cette compo elle est très bien, mais bon, on sait très bien que dès que l'adversaire sera un petit peu plus coriace, on la verra pas comme ça. J'ai du mal à imaginer un 4-4-2 avec Mbappé sur le côté s'il y a un match contre Argentine, Allemagne, enfin bref, les gros de la Coupe du Monde. Donc qu'on le voit demain, ce système-là et ces joueurs-là alignés contre la Colombie, très bien. Colombie qui est une belle sélection.
C'est une bonne sélection. Bon, voilà. C'est pas un favori, mais c'est une bonne sélection.
Ok, mais je suis pas sûr que c'est l'équipe des gros matchs avec ces joueurs-là placés à tel endroit. Moi, dans ce 4-4-2, voir Mbappé comme ça, pourquoi pas? Moi, j'aurais aimé, et c'était un petit peu ça la vie tranchée, de toute façon, que je n'ai pas fait, mais que je vais improviser vite fait en très peu de temps. Moi, j'aurais bien aimé qu'on voit et assez rapidement ce à quoi peut ressembler le fameux 4-3-3 que Deschamps va aligner dans les grosses équipes. Qu'ils doivent préparer plusieurs systèmes, je suis absolument d'accord. Qu'il ait envie de continuer avec Griezmann, Giroud comme ça, très bien, pourquoi pas, c'est ce qu'on verra demain. Mais j'ai envie également rapidement.
On va peut-être le voir en Russie.
Qu'on ait
ce sera assez logique qu'il change.
Ouais, en Russie, en quoi
il va faire tourner, peut-être.
Voilà. Mais qu'on ait rapidement, s'il faut, qu'on ait un milieu à 3, Matuidi, Kanté plus 1, probablement, très probablement, Pogba. Ces 3-là, et devant, une association, Griezmann, Mbappé, Dembélé s'il est en forme. Moi, ouais, j'aurais plus Dembélé, parce que Mbappé, à un moment, va bien être le 9, quoi, non? À un moment, plus que Giroud. Donc, en gros, j'aimerais bien avoir plus rapidement des réponses sur ce que va être l'équipe des gros matchs. Voilà.
Jérôme?
Écoute, j'attends de voir. Maintenant, le 4-4-2, moi, j'aime bien ce système-là. Je trouve qu'il peut être très spectaculaire si tous les joueurs se complètent bien, sont complémentaires sur le terrain. J'aime bien le duo côté gauche Digne-Lemar. J'aime moins le duo Sidibé-Mbappé. Je m'explique pourquoi. Parce que Mbappé, dans ce 4-4-2, comme dit Didier, qui est en place, je vois pas Mbappé milieu droit ou milieu offensif droit. Parce que milieu offensif droit, ça veut dire du repli défensif, beaucoup plus qu'il le fait quand tu joues à 3 devant. C'est-à-dire aussi une variation dans ton mouvement, pas forcément rester toujours ligne de touche, mais aussi rentrer comme un milieu offensif d'axe, ce que va faire naturellement Lemar, parce qu'aujourd'hui il joue numéro 10 à Monaco. Mbappé, je le vois moins dans ce système-là. Et puis surtout quand tu joues en 4-4-2, je viens de te le dire, mais les doublettes sur les côtés sont très importantes pour apporter des centres. C'est pour ça qu'ils mettent deux présences devant le but, Giroud et Griezmann, et que côté gauche j'ai pas de problème. Je sais que même Lucas Digne qui joue moins, il aura la caisse, les jambes, la qualité technique pour faire des décalages avec Thomas Lemar et arriver à centrer bon nombre de fois côté gauche. Côté droit, je te dis, Sidibé naturellement va le faire, mais avec Mbappé, qu'est-ce que Mbappé va lui apporter à Sidibé sur le côté? J'ai du mal dans ce système-là. Voilà, c'est tout. Donc, ça me surprend que encore une fois, on s'entête à faire ça, parce que je vois pas sur la compétition mondiale. Et là, je rejoins Daniel. Ce que je veux dire, je vois pas l'équipe de France, l'équipe type de Didier Deschamps, un Mbappé côté droit, comme
ça, c'est bizarre,
avec Thomas Lemar côté gauche, peut-être Thomas Lemar, mais un autre dans ces cas-là. Quand t'as un Dembélé qui a été blessé, mais qui joue actuellement à Barcelone. Au bout d'un moment, il jouait pas. Là, il a fait un bon match de Champions League. Du moins, il a marqué son premier but. Mais c'est important pour la confiance. Derrière, il a enchaîné. Dembélé, il peut jouer, là, dans ce système à 4. Il fait beaucoup d'efforts aujourd'hui à Barcelone. Et il joue vraiment dans ce système-là.
Il joue en 4-4-2.
Et ouais. Donc, c'est ça qui est surprenant. Et puis, Mbappé, aujourd'hui, on en fait des caisses. Normal, il a fait une année dernière, on l'a découvert exceptionnel. Et attention, j'ai rien contre ça. Aujourd'hui, il est moins bien. et donne la chance à d'autres. Et peut-être lui repositionne-le dans l'axe dans ces cas-là, si aujourd'hui, côté droit, ça pose problème.
Dis-nous ce que vaut la Colombie, Jonathan.
Bon, c'est une bonne équipe, ça, il n'y a pas de doute. Après, c'est une équipe qui a galéré sur la fin de ses éliminatoires dans la zone AM Sud parce qu'ils avaient bien commencé.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ils avaient très bien commencé, voilà. Ils avaient une bonne impression.
Ils ont un petit peu ché dans la colle, pardonnez-moi l'expression, sur les derniers matchs, ce qui fait qu'ils se sont un petit peu mis la pression sur la fin alors que normalement leur qualification aurait dû être acquise à 2-3 journées de la fin. C'est une bonne équipe qui joue en 4-2-3-1. Les deux joueurs dans la ligne de 3, Ramez joue axial, mais les deux joueurs sur les côtés, à savoir Cuadrado et Cardona, ne seront pas là. Cuadrado se remet doucement de son opération. Cardona a été suspendu 5 matchs pour un geste un petit peu curieux face aux Sud-Coréens lors de leur dernière tournée asiatique. Et en plus, c'est pas dit qu'il soit à la Coupe du Monde parce qu'il a quelques casseroles à Boca Junior, une histoire de viol qui lui court après. Donc là, il y aura quand même pas mal de changements. Il y aura Chara et soit Muriel ou Moreno qui joueront sur les côtés. Mais oui, c'est une bonne équipe.
Au milieu, il y a le Montpellier qui joue donc.
On l'a pas voulu, le Valenciennois.
On l'a pas voulu en équipe de France.
Non, Sanchez, l'ancien Valenciennes. Ah, Aguilar, tu arrêtes.
Et la grande nouveauté par rapport à la dernière Coupe du Monde, je pense que ça vient derrière où on a enfin trouvé l'héritier de Mario Yepes.
Ah ouais.
Attention, tu le vois jouer Davinson Sanchez de Tottenham, qui est quand même un bon défenseur.
Exactement.
Qui s'impose en sélection.
Là, je te rejoins. Là, c'est un très bon défenseur. Mmh. Vraiment, il s'est imposé. Déjà, c'est pas facile parce que la concurrence, elle a profité du fait qu'un des deux Belges se soit blessé. Voilà. Mais aujourd'hui, il est indéboulonnable.
Ouais, et puis, la charnière avec Zapata du Milan, qui, j'ai jamais trouvé extraordinaire au Milan, mais c'est vrai qu'avec la Colombie, il délivre toujours.
Ah, et on sait bien que, entre les performances parfois en Europe et ce qu'ils font avec leur sélection, il y a souvent des écarts.
D'ailleurs,
rappelez-vous, Yepes, qu'on croyait complètement cramé, bouilli. Et qui c'est en 2014
il était là.
Où il est là et où il fait des matchs. Je me dis mais comment il fait encore pour être
Carlos Sanchez titulaire dans cette franchement quand tu le voyais jouer à Valenciennes, faut pas déconner.
C'était un bon joueur à Valenciennes.
Non, attends. Bon joueur, il était dans un contexte pourri.
Il oubliait de jouer au il mettait des.
C'était son premier club en Europe. Hein,
il est à l'Espagnol, il fait une bonne saison. Après, le plus de la Colombie, il faut dire, c'est Pekerman. C'est Pekerman qui est là depuis, c'est le sélectionneur qui aura le plus duré à la tête de la sélection, c'est 6 ans, c'est le record devant Maturana, il a plus de 70 matchs avec cette sélection-là et il a des résultats qui sont vraiment plus qu'honorables. Il fait bien jouer son équipe et surtout il tient bien sa sélection avec des joueurs qui parfois sont un petit peu, auraient pu être un petit peu compliqués à gérer.
En gros, ce que tu me dis, c'est que ce sera pas forcément très déséquilibré demain soir.
Bah, c'est pas un des favoris de la Coupe du Monde, mais c'est un bon outsider. Demain, je pense que l'absence de Cuadrado et Cardona va leur faire un peu de mal parce que c'est quand même deux joueurs essentiels dans le schéma.
C'est pas la même équipe, déjà. Quand tu joues avec un côté droit comme Cuadrado. Ouais.
Et même Cardona, parce qu'il joue qu'à Boca Junior, certes, mais c'est quand même un excellent joueur qui sont très complémentaires avec Ramez. Après, devant, il y a quand même de la qualité. Il y a Zapata de la Samp qui est là. T'as Muriel qui, même si, voilà, il est
un petit peu d'Espagne, mais
quand il joue sur le côté,
concurrent,
il est pas mal en général.
Arrêtez.
Si demain il fait un bon match, le Muriel, on va être.
Il peut faire un bon match dans le.
Il a fait des bons matchs à gauche.
Voilà, il faut pas qu'il se retrouve face. Lui il connaît peut-être pas la dimension des buts. Hein. Ça, je suis sûr, Muriel, parce que franchement, il les voit un peu plus grands qu'ils le sont, les buts.
Là, si vous voulez, j'ai la liste quasi, à 3-4 noms près, j'ai la liste de la Colombie.
Pour la Coupe du Monde ?
Oui.
Ouais, non, on va pas se taper les 19 noms.
Ok, mais disons non, juste
deux. Sur ton compte Twitter pour ceux que ça intéresse.
Il y est pas.
Non, il y est pas. Mais juste devant, il y a quand même Bacca, Falcao, Ramez, Cardona, Cuadrado, Zapata. Ils ont quand même un
Bacca qui fait pas de
mental effectif. Ouais.
Un mot de l'Argentine, parce que l'Argentine joue demain face à l'Italie.
Ouais.
Et alors Maradona a encore sulfaté la terre entière.
Ouais, ça c'était avant, je l'ai dit, mais ouais, mais ça c'est comme d'habitude avec Sampaoli. Il le déteste.
Bon, très bien.
Et c'est vrai que Sampaoli est quand même très surprenant sur ce qu'il fait en Argentine.
Tu sais, Sampaoli, est-ce que toi tu dois la connaître, l'anecdote qu'il raconte toujours sur la possession, sur la femme dans le bar?
Ah, oui.
Tu sais. Donc, Sampaoli, il raconte une anecdote en disant, une métaphore où il dit, voilà, moi, un jour, j'ai dragué une femme toute la soirée dans un bar, je lui ai payé des coups, on a parlé, on était bien. Et y a un mec qui arrive, et puis c'est lui qui la ramène, et c'est lui qui se la fait. Et moi, c'est moi qui ai gagné, parce que c'est moi qui ai eu la possession, qui l'ai possédé. Et en fait, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, Sampaoli, ça illustre bien le personnage, c'est que c'est un mec qui est totalement romantique, mais qui est.
Donc, il peut avoir la possession du ballon et perdre le match. Il s'en fout,
C'est plus pour dire que la forme, enfin voilà, que bref, la fin, les moyens, tout ça. Mais en fait, ce que je veux dire, pourquoi ça nous parle beaucoup de Sampaoli, c'est parce que c'est un mec qui, voilà, il est arrivé, prendre la sélection de l'Argentine, c'était un rêve. C'était un rêve pour lui. Il raconte qu'à 6 ans déjà, il s'imaginait sélectionneur argentin, ouais, en train d'imaginer quelle causerie il ferait à tel ou tel joueur. Et là, en fait, on le reconnaît plus par rapport au travail qu'il a fait au Chili, qui a été un super travail quand même, qui a un petit peu qui a enlevé le mauvais sort autour du Chili, qui n'avait jamais rien gagné, qui était la nation maudite, il leur a fait gagner la Copa América. Il a fait un super travail avec une belle génération. Mais là, depuis qu'il est arrivé, ça marche pas. En parallèle, il est arrivé en même temps que Tite à la tête quand Tite prend le Brésil, Sampaoli prend aussi l'Argentine. Tu regardes le bilan, c'est totalement deux trajectoires différentes. Et là, aujourd'hui,
il est critiqué pour le fait de pas prendre Dybala. C'est quand même dingue de pas prendre Dybala.
Aujourd'hui, en conférence de presse, on a vu en fait qu'elle était, qui commençait à se faire un peu dessus. Premièrement, il nous annonce quelque chose. Daniel, défense à 4. Est-ce que dans le dogme sampaolien, c'était envisageable auparavant? Pas du tout. Jamais. Là, ça sera une défense à 4 à plat. Il parle de Gonzalo Higuain qu'il ne sélectionnait pas lors des premiers rassemblements et qui disait bah voilà non j'en ai pas besoin, j'en veux pas, et puis en off c'était il est nul. Là il a passé 15 minutes à lui cirer les pompes. Il nous a dit ensuite que c'était pas sa sélection mais c'était la sélection de Messi, que c'était génial et que lui il
après
serait
on
pour
fera
rien.
on fera analyser.
Attends, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Christophe.
Bah, j'allais dire on va faire voilà. Analyser ça
Christophe,
après.
Christophe le gars arrive le coaching, et dit mais moi c'est pas ma sélection, c'est celle de Messi.
Bah, il se fragilise complètement.
Il le responsabilise, voilà. Quoi, le patron.
Il se fragilise
complètement.
À moins que Messi le sauve. À moins que Messi.
Comme
Messi
il l'a sauvé en éliminatoire en mettant le triplé.
Il l'a sauvé déjà.
C'est lui qui met le triplé.
Et comme les sélectionneurs argentins se cachaient derrière Maradona. Qui était le patron.
Ah, vous êtes beaux les deux là, avec Sampaoli, ils nous l'ont vendu.
Non, mais bon,
aujourd'hui,
on reconnaît quand on sait reconnaître qu'on n'est pas plus son passion.
Mais Sampaoli, j'adore cet entraîneur.
Oui,
il peut très bien, selon les contextes, ne pas réussir quelque part. Que c'est le problème.
Tu sais, Jérôme,
il va y aller.
Non, mais si tu veux parler du foot argentin, il ne faut pas parler de Sampaoli, il ne faut pas parler des joueurs, il faut parler de la maladie qui est la gangrène.
Non,
c'est décevant à l'image de la gangrène qui touche la fédération argentine. Je te rappelle, la fédé était sous tutelle de la fédération.
C'est pas un problème de joueurs, ça, je te parle des joueurs.
C'est un problème d'organisation.
Voilà, quand tu mets pas les meilleurs joueurs sur le terrain, de toute façon, il y a
un problème d'organisation d'abord.
Aujourd'hui, quand tu mets Dybala de côté, Icardi de côté, c'est pas un problème de la fédération. C'est un problème de.
Pourquoi Dybala n'est pas là?
Eh ben ouais, tu vas me trouver.
Non, il y a pas d'excuses. Mais non,
bah
mais
voilà,
c'est inexplicable. Dybala n'est pas là parce que alors il y a
et
des
parce
rumeurs
que, parce
qui
que,
disent que Messi veut pas jouer avec lui. Voilà. Après, je sais pas ce que ça vaut, mais moi, je pense juste que Dybala, il lui a donné sa chance beaucoup. Et qu'il a jamais réussi à trouver sa place dans le
mais encore
système.
Une fois, ça vient, on se comparait du comment coacher une équipe, comment coacher des joueurs. Dybala, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, après il peut se tromper, il peut être mauvais sur des matchs, hein, et surtout quand t'arrives en sélection.
C'est vrai qu'un trio Messi, Di Maria, Dybala.
Mais non.
Après, est-ce que ça fait trois mecs un peu pareils?
Messi, Dybala.
Franchement, Daniel, vaut mieux avoir ces trois joueurs-là que trois joueurs qui savent pas faire une passe.
Mais c'était pas complémentaire.
Après, ces trois-là,
mais qu'est-ce qui
n'est
pas complémentaire?
0-0
comment tu
le
Venezuela
des joueurs.
Excuse-moi,
mais t'as oublié Salah. Ah oui. Mais c'est vrai, comment il ne peut pas prendre Emiliano Salah?
Je me le demande.
C'est vrai, c'est un vrai problème.
Mais après,
ça.
Oui, c'est vrai que ça interpelle.
Mais arrêtez avec un jeu de complémentarité.
Je te parle de ce que ça a donné quand on s'est été aligné. Après,
oui,
évidemment,
mais
c'est bizarre
mais
après, de ne pas prendre ni Dybala et
mais
ni Icardi.
Ça dépend comment l'entraîneur te met en place. Tu sais, il y a le tableau noir dans un premier temps. Tu mets voilà le schéma. Moi, ça me fait rire. L'animation, c'est l'animation qui est la plus importante. Que tu joues en 4-4-2, en 4-3-3, en 3-5-2, de toute façon. Daniel, il voulait faire son avis là-dessus. Je suis totalement en désaccord avec lui. Bon, il l'a pas fait, mais quand il dit ouais, il faut qu'on reste en 4-3-3. Mais pourquoi un 4-3-3? Ça veut dire quoi un 4-3-3? Tu peux tout transformer. Le 4-4-2 là de demain peut se transformer en 4-3-3.
Mais là,
dans le match.
Non, mais Jérôme, mais là, ouais. je t'en joins pas, c'est que
allez, on passe
tu
à la
peux
suite.
Pas jouer avec des joueurs qui ont trop le même profil.
Jonathan, un mot sur le Brésil.
Bah, le Brésil, c'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule parce que bah voilà, depuis que Tite a repris la sélection, ça marche. Le bilan comptable excellent, c'est 13 victoires, une défaite contre l'Argentine en amical et 3
mais
nuls.
Est-ce que Pierre qui roule amasse la mousse?
Ça, c'est un des mystères de la vie.
Il y a quand même un Allemagne-Brésil, mardi prochain.
Ça,
le premier depuis.
Les Allemands, ils sapent pas mal
favoris.
De gros matchs là, parce que là, ils jouent l'Espagne, c'est
favori ça. Favori contre favori, ça va être Brésil-Allemagne. Écoute, ça va être un super match. Il va avoir pas mal de petits tests, à mon avis. Il va falloir essayer de faire son Neymar. Il est possible que.
Ils font qu'un match, le Brésil?
Non, deux. Russie. Ils jouent aussi contre la Russie.
Aussi. La Russie, ils vont en prendre deux bonnes, je pense.
Il y a des chances.
Il va essayer
pas mal de petites
demain,
choses. Et peut-être que Tite, qui a toujours le même système en 4-1-4-1, c'est possible qu'il essaye des variations tactiques avec Willian et Douglas Costa.
Ça me permet de vous annoncer que mardi prochain, sur RMC, on aura tous les matchs amicaux le soir, notamment ce Brésil, cette Allemagne-Brésil. Il y aura toutes les grandes sélections et tout. On sera dans tous les stades d'Europe.
Demain soir.
Mardi.
Juste après le match de l'équipe de France qui est à 18h, le match
en Russie.
Argentine-Espagne, les gars. Argentine-Espagne
en plus, mardi prochain. Là aussi, on
c'est cadeau.
Ouais, c'est beau.
Ça va être joue pas en Suisse d'ailleurs celui-là.
Il me semble. Oui.
Ouais, je crois qu'il joue à Genève, l'Argentine et l'Espagne. Bon.
Attends, et juste.
Encore autre chose.
Le Pérou joue contre la Croatie, ce sera un bon test pour les Péruviens de jouer contre une sélection européenne. On va voir ce qu'ils sont vraiment dans le ventre.
On tremble.
Très bien. Non, il n'y a pas de quoi.
Non,
mais c'est intéressant de voir.
On change totalement d'endroit et on va rejoindre l'Allemagne avec David Lorto et Corentin, parce qu'il est toujours là. Corentin, il va nous parler de Draxler ce soir. Jingle.
RMC, l'afterfoot, l'instant Corentin.
Corentin, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
David Lorto, bonsoir.
Allô Fred, salut Gilbert, salut tout le monde.
Alors, Corentin, vous savez que Corentin, le mec, c'est le nouvel ami de la Coupe du Monde. Il a fait le voyage entre l'Italie et la France avec le trophée l'autre soir. Génial. Hein, faut quand même le rappeler. Donc, il était avec nous mardi. Bravo Corentin. Alors, Corentin, tu voulais parler de Draxler dans ta petite chronique ce soir, et ça te tombe bien parce que, attention, tu parles sous le contrôle de l'Orto. Hein. Donc, tu as analysé tout ça en vue de la Coupe du Monde, les performances de Draxler.
Analyser, oui et non. En fait, pour faire un peu différemment que d'habitude, je voulais plus vous poser quelques questions et échanger un peu avec vous pour voir son impact sur la Coupe du Monde, sur sa place en sélection pour ses un peu plus d'un an au PSG. Parce qu'en fait, en gros, Draxler, il arrive au PSG janvier 2017. Ses deux premiers matchs, Bastia, Rennes, on se rappelle, il marque, il s'installe directement à gauche, ça refait passer Di Maria à droite, ça remet un peu Di Maria sur le droit chemin. Donc son aventure parisienne, elle commence à gauche, match référence, les deux matchs références, c'est le 4-0 contre le Barça à l'aller et la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco. Mm-hmm. La saison d'après, bon, il y a le marché des transferts, le mercato, il est beaucoup moins dans le 11, ce qui fait qu'il disparaît en début de saison. Et en fait, ce qui le remet sur le terrain, c'est la blessure de Thiago Motta contre l'OM, qui le fait passer cette fois dans le milieu à 3. Mm-hmm. Dans ce rôle-là, on voit que dans les petits matchs, ça passe. Mais dans les gros matchs, et là je me rappelle surtout du 5 décembre, en plus David pourra le confirmer, le Bayern PSG, le 3-1, 5 décembre dernier, c'est compliqué quand tu veux mettre de l'impact, quand le PSG est un peu moins dans le confort. Et le dernier gros match qu'il a joué dans le milieu en tant que vraiment gros match, parce que contre le Real, il est rentré deux fois en jeu, mais ça, on n'a pas le temps, puis bon, le contexte était différent, c'est le match à Lyon, où pareil, il passe au travers, dès que le PSG doit mettre un peu plus d'impact, un peu plus de rythme, être moins dans le confort, c'est un peu plus compliqué.
Dès qu'il faut enlever les chaussons, quoi. Dès qu'il faut se retirer les doigts des fesses, quoi.
Une équipe d'Allemagne, il joue à gauche, parce que avec des milieux de terrain tels que Khedira, Kroos, Gundogan, il a pas le rôle, il joue pas dans le milieu à 3, dans un milieu à 3 comme il joue au PSG. Donc moi, la question que je vous pose, c'est vous préférez le voir à gauche, un peu dans son rôle de la saison dernière ou dans ce rôle de cette année où il peut remonter la balle, notamment.
Moi, je vais te dire, Corentin, j'ai été très critique envers lui ces derniers jours parce que je trouve que il est un petit peu épargné des critiques. On focalise beaucoup sur l'attitude de Pastore, par exemple, pour parler des deux joueurs qui ont perdu leur place de titulaire et qui ont un rôle de remplaçant aujourd'hui.
Sauf que Pastore, il joue jamais.
Non, mais en plus, on a souvent critiqué les entrées de Pastore où il avait pas envie, il avait pas ceci, cela. Mais Draxler, il est passé entre les gouttes. Vraiment, les deux matchs là, il le montre là, son entrée en jeu contre le Real Madrid, elle est catastrophique. Alors c'est bien de parler après coup, hein, l'entraîneur, ceci, cela. Mais au bout d'un moment, il faut se retirer les doigts des fesses. Dire que ça soit côté gauche ou dans, il peut jouer partout. Il a une très bonne qualité technique. Il a une très bonne vision du jeu. Il est capable de marquer des buts, de donner des balles de but. Franchement, c'est un joueur complet. Donc il peut jouer dans les trois au milieu, sans aucun doute, ça soit à gauche ou à droite. Il peut jouer plus haut côté gauche ou côté droit. Mais c'est une question de d'état d'esprit dans un premier temps. Ils vont pouvoir faire des efforts. Alors est-ce que ces efforts, il les fait pas parce que dans la tête aujourd'hui, il joue beaucoup moins? Et que ça lui a touché le moral. C'est possible. Mais ça, dans ces cas-là, il faut qu'il l'explique et qu'il monte moins ses états d'âme sur le terrain.
Alors, l'avis de David Lorto, qui suit le foot allemand de très près au quotidien. David.
Alors, quelques points très simples, en fait, qui permettent de tirer une conclusion claire, me semble-t-il. D'abord, le Paris Saint-Germain et donc Draxler et par ailleurs Kevin Trapp Le Paris Saint-Germain a un très bon crédit officiellement auprès des Allemands, auprès de la sélection, auprès des gens dans les clubs aussi en Allemagne. Ça, c'est un point qui serait favorable à Draxler. Il y a un deuxième point qui l'est beaucoup moins, c'est que, comme le disait Corentin à l'instant, ça joue, et ça devrait jouer d'ailleurs demain soir, en 4-2-3 en Allemagne. Les deux milieux défensifs, c'est deux postes qui sont partagés entre Khedira, Kroos et Gundogan. Donc là, il n'y a pas de place. Ensuite, si Draxler doit jouer à gauche, il y avait Podolski, il est parti, donc ça c'est un point positif, admettons, mais il y a Royce, qui est numéro 1 à gauche, qui n'est pas appelé là parce qu'il est ménagé physiquement, et il y a devant lui aussi Leroy Sané. Ça fait encore un barrage, et il n'y a pas de place en fait pour Draxler dans la sélection actuellement. C'est assez simple en fait, si on fait les calculs comme ça, il y a certes des points positifs dans l'environnement.
Donc il n'est pas sûr d'être dans les 23 en fait.
Bah si, alors il est dans le groupe demain et logiquement, il a du crédit, hein, je le répète, hein, il a du crédit en Allemagne parce que Paris Saint-Germain, grand club, parce que Draxler, et Jérôme le disait très bien à l'instant, il a toutes les qualités qu'on lui connaît, bien sûr qu'il va être dans le groupe, au moins actuellement, après on verra ce qui se passe jusqu'au mois de juin-juillet, mais si, il doit être dans le groupe, mais alors derrière, il y a, en fait, il est barré par le système d'une part, même si celui-ci peut évoluer, ça passe pas du jour à la nuit et vice-versa, et puis après, il y a des joueurs plus forts à son poste, tout simplement.
Comment c'est un truc à rajouter ?
Dernier petit truc, si je peux me permettre. Il y a un aspect que je n'ai pas trop évoqué parce qu'on l'a trop peu vu. On l'a vu notamment dans le match aller face à Lyon au Parc où il y a eu le 2-0 avec les deux buts contre leur camp en fin de match, là, ceux de Marcelo et de Morel, il me semble. Meneur de jeu. Où il joue vraiment, c'est un 4-2-3-1 où il joue meneur de jeu, mais le PSG n'est pas rendu une bonne copie ce soir-là. Et on voyait que les 4 de devant, en l'occurrence ce soir-là, c'était Neymar, Mbappé, Draxler et Cavani, se marchaient dessus. Donc voilà, c'est la dernière chose que je voulais rajouter, Gilbert.
Bon, le bilan est pas très positif. Non,
mais après, il a beaucoup de crédit auprès de Joachim Löw, quoi. Il était capitaine à la Coupe des Confédérations.
Joachim Löw, il est lâche pas les mecs quand tu les aimes bien. C'est...
Alors, regarde, Paul dit le nombre de temps où il est resté. Ouais, mais...
Qui
Podolski.
Ah oui, il l'aimait bien.
Oui, il l'aimait bien.
Non, mais j'ai l'impression qu'il compte vraiment sur lui. Après, c'est vrai. Les deux matchs dont Corentin, tu nous parlais contre le Bayern et contre Lyon, c'est dur parce que c'est l'ensemble du milieu qui sont.
Ça. David, demain soir, donc l'Allemagne joue. Est-ce qu'il y a une autre info importante à nous donner hein, sur le match ?
Bah, des infos importantes, oui. Alors après, ça sera sous forme de boutade, mais les Allemands étaient un peu échaudés parce que les derniers matchs amicaux qui s'étaient disputés sur le sol allemand, il n'y avait pas de guichet fermé. Là, ce sera le cas. Non, ce que j'ai ressenti moi dans les dernières heures et dans la communication qui a été faite par le staff, par les joueurs, par le sélectionneur, c'est quand même une vraie grosse forme de confiance. Alors il y a dans les années 80-90, on aurait parlé d'arrogance. Aujourd'hui, c'est plus exactement ça. C'est simplement le fait que on prépare tout cela dans les moindres détails. Quoi. Il y a l'Espagne, vous l'avez dit, il y aura le Brésil aussi mardi. Un groupe élargi parce que le sélectionneur dispose d'un vivier qui est quand même assez incroyable. Je suis pas sûr qu'il faudra tirer des enseignements très très importants demain soir, mais on va quand même. J'ai senti moi dans la communication et dans les, ne serait-ce que dans les regards, dans les mimiques des joueurs même ces dernières heures, une énorme confiance. On le sait, il y a une grande série de matchs réussis ces derniers temps côté allemand. Donc, je pense que cette confiance-là, elle va pas disparaître d'ici le mondial. Même si, et on aura l'occasion d'en reparler, Gilbert, il y a toujours ce mystère Manuel Neuer, le gardien de la sélection numéro 1, dont on n'a toujours pas fixé de date de retour. Il était question de février, puis de mars. Maintenant, c'est avril. Et on commence tout doucement à ouvrir la porte et à dérouler le tapis rouge pour Ter Stegen, éventuellement, comme gardien titulaire au mondial.
Merci David.
Salut David.
Salut messieurs.
Merci Corentin.
Merci à tous.
Salut, à la semaine prochaine.
C'était l'actu du FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola avec l'instant Corentin dans l'After Foot.
Voilà, je rappelle que le trophée de la Coupe continue sa tournée mondiale après être passé par la France.
Et où va-t-il maintenant ?
Il se continue de se balader. Il est sur le continent américain. Ah, figure-toi.
Est-ce que Freddy Adu sera là pour l'accueillir ?
Ah, je ne sais pas.
Peut-être Romain Alessandrini.
Peut-être que Zlatan sera là, puisque Zlatan a signé à Los Angeles. On va en parler dans quelques instants, d'ailleurs, dans l'after.
La star, ça sera toujours Romain Alessandrini.
Mais un truc que j'ai pas compris. Un mec de ta trempe, ça devait finir aux US.
Mais tu sais quoi,
Los Angeles, Miami, c'était pour toi.
En fin de carrière, j'ai eu des propositions.
Et tu devais aller là-bas. C'était pour toi.
Mais
le côté spectacle, lui.
Non, non, je vais à Caen.
Non, j'ai privilégié la famille. Tu sais, des fois.
Ouais, mais Jérôme, les galaxies,
Top
avec
Allez,
toute la famille.
On revient tout de suite, messieurs.
C'est pas pour moi.
Ça. L'after revient à quelques
Je laisse secondes. À Alessandrini, par exemple.
RMC, le super football show. L'after foot, Gilbert Bribois.
L'After est là jusqu'à minuit. Jérôme Roten, Daniel Riolo, Jonathan McCardy, notre invité ce soir est Christophe Bourgois-Costantini. Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez aux éditions First. Ça parle de foot, de tennis, entre autres, hein, mais il y a plein d'autres choses, bien sûr, pour développer vos 6 formes d'intelligence. Je vais retenir, il y en a 6. Les gars, un peu d'actu.
Il y en a 10 et quand on a 6, on devient champion.
Disais, j'en avais 7 ou 8, moi.
Le problème, c'est qu'il m'en manque quelques-unes à moi.
Attends, c'était quoi que je voulais savoir, justement?
Daniel en a au moins 2.
Alors, dans l'actu du jour, je voulais vous parler de la commission de discipline.
Comment les champions deviennent champions? C'est important pour moi, ça, de le savoir avant que l'émission se termine.
Thiago Motta, 3 matchs de suspension après son carton rouge en championnat.
Après son essuyage de pied?
Voilà, 3 matchs fermes.
Donc, il aura fait quand même une saison très courte, lui.
Ouais. C'est logique, hein.
Et alors, la petite polémique du soir à la commission de discipline, c'est que suite au match Marseille-Lyon.
Qu'a dit monsieur Deneux?
Eh bien, on a décidé de convoquer Lopez, Marcelo et Rami. Le 12 avril, sauf que le 12 avril, c'est le match retour de l'OM contre Leipzig, donc très intelligent comme date.
Ils ne seront pas, ils seront représentés. Par contre, Lopez, il va y aller.
Et Marcelo.
Et Lopez et Marcelo
vont y aller.
Et je pense qu'il peut prendre. Il peut prendre.
Ah, Lopez, il faut qu'il prenne cher.
Au bout d'un moment, surtout que c'est quand même à mourir de rire. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit la fin au départ. Mmh. Et quand il est avec Greg Coupet qui le retient, il dit « Mais moi, j'ai rien fait !» Ah bah non, t'as rien fait, non, t'as raison.
Et puis en Ligue 2, vous avez vu la baston entre joueurs à Auxerre,
Donc
Paloma et Barreto, 6 matchs pour Paloma, 5 pour Barreto. Alors pourquoi 6 pour l'un, 5 pour
parce que il y en a un qui a commencé,
c'est qui a mis le premier coup.
Ouais, c'est ça.
Ça veut dire quand même qu'à la commission de discipline, ils analysent les images de la baston en se disant attention, quel est le mec derrière la baston.
Je t'ai déjà
expliqué comment ça se passait. Au d'un moment, écoute-moi Jules Verne, je t'ai dit comment ça se passait, t'as des écrans partout là comme ça là, ils sont tous autour de la table, toi t'es là en face, donc tu dis voilà.
Et oui, placé monsieur Deneux
en face. Enfin, bah président,
t'es assis ou debout quand je passe?
Non, t'es assis, hein. Et donc
après, il est en face, donc tu vois sa
moi,
tête.
Moi, c'était la première fois que j'allais, je suis allé qu'une fois, du moins deux fois après, parce que je suis retourné. Mais
un jour, hein, il est en face de tu peux pas rater, tu vois sa tête,
oui, bon.
Deneux.
Et donc, clac, et là, il t'explique. Moi, c'était un accrochage, et tu dis, voilà, c'est ça. Et là, tout se met en scène, c'est magnifique. Et là, tu vois, il décortique tout. Voilà. Donc, forcément, ils ont vu qui avait commencé la bagarre.
Bon, alors, je reviens à Zlatan. Donc, Zlatan, il part tout de suite. Hein. Il est dès la fin de la semaine, là, à Los Angeles. Premier match annoncé le 31 mars contre l'autre club de Los Angeles. Là, il y a un nouveau club en MLS, donc derby.
Les Clippers.
Derby de LA.
C'est
le Los Angeles FC.
Il s'est accroché avec Alessandrini déjà.
Ah ouais, il va jouer avec Alessandrini. Ouais,
peut-être qu'il est allé là-bas pour le tarter définitivement.
Écoute, là-bas, en tout cas, c'est une star, hein, Alessandrini. Hein.
Ah oui,
c'est un des meilleurs joueurs de la ligue et c'est le meilleur joueur de son équipe.
Ça va changer sa vie.
Sinon, 8 clos partiels pour le PSG. Après, vous savez, tous les fumigènes contre le Real. Donc, tribune Auteuil fermée lors du prochain match de Coupe d'Europe du PSG. Et l'OM, il y avait aussi des problèmes avec les supporters de l'OM à Bilbao, rappelez-vous. L'OM privé de déplacement à Leipzig, enfin les supporters. Non, pas l'équipe. Les supporters ne pourront pas aller à Leipzig. Décision de l'UEFA aujourd'hui, qui envoie des grosses amendes, hein, par ailleurs, du 40-50 000 euros à chaque fois. Un mot quand même sur la crise diplomatique.
Il faudra juste un jour expliquer parfois l'accueil de la Guardia Civile quand les supporters étrangers se déplacent. C'est pas forcément que toujours de la faute des supporters.
Bon, bah écoute, en tous les cas, là, ce sont les supporters qui sont sanctionnés. Ouais. Vous avez suivi Boris Johnson avec Poutine?
Ah, vas-y, raconte, c'est bien.
Le ministre des Affaires étrangères anglais qui dit la Coupe du Monde 2018, c'est comme les Jeux de 36. Voilà, donc les Jeux de 36, ouf, c'était à la gloire d'Hitler.
Oui.
La Coupe du Monde 2018, c'est pour Poutine. Donc évidemment, en Russie, légèrement énervé.
Un parallèle, un brin hasardeux quand même.
Voilà, Vladimir n'est pas content.
Quand même.
Voilà, mais les Russes ont quand même dit aujourd'hui, vous inquiétez pas, les supporters anglais, on les recevra en sécurité.
Les hooligans russes les attendent de pied ferme.
Non, mais attendez, parce qu'il y a une dinguerie avec cette histoire, racontée par Simone Rovera hier, c'est que les Italiens, ils se disent, mais si les Anglais n'y vont pas.
Nous,
on peut y aller.
Mais pourquoi les Anglais n'y vont pas?
Parce qu'il y a eu en Angleterre un mouvement qui s'est développé sur boycottons et n'y allons pas suite à cette crise diplomatique.
Ça me semble assez improbable.
Et là-dessus, les Italiens se disent bah alors, c'est nous les.
N'y allez pas, nous on y va.
N'y allez pas, t'as raison, Boris Johnson.
N'y va pas, nous on va y aller.
C'est le délire italien du moment.
On fera ça pour vous.
évidemment, les Anglais.
Il y a un moment, ils ont attendu le forfait du Pérou aussi.
Évidemment, les Anglais vont y aller.
Au dernier moment, ils attendent un forfait.
Vous signalez aussi que Iniesta arrêtera la sélection après le mondial. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore comme info importante? Usain Bolt s'entraîne à Dortmund vendredi pour devenir footballeur, peut-être. Oui. Donc, on remercie son équipe entier. Voilà. Ouais, lui fait croire qu'il peut devenir.
Ouais,
toujours,
on y croit. On y croit.
Comment on passe d'un sport à l'autre?
Non, mais moi, je pense pas que ce soit si idiot que ça. Parce que le foot, c'est maintenant l'apologie de la vitesse.
Regardez, mais il faut avoir un minimum de technique à ce niveau quand même.
Peut-être qu'il est technique.
D'abord, il est peut-être technique.
Enfin, il y a un paquet de joueurs au niveau de la technique, si tu veux, on peut en parler. Hein.
on a envie d'une flèche. Hein. Faut voir comment il court effectivement avec un ballon, mais spontanément comme
Mais ça voudrait dire que tu fais ta stratégie en fonction de Bolt. Genre, tu mets Bolt devant.
C'est pas sérieux, c'est pas une équipe de haut niveau qui va le prendre, c'est juste rigolo. C'est juste rigolo de le voir tenter ce truc-là, voilà, c'est tout.
Ça va dans la mouvance que devant, ça va de plus en plus vite.
Ah, ça c'est sûr que ça.
Mais avec de plus en plus de technique aussi.
Je rappelle qu'il s'était entraîné dans le sud avec une équipe, genre, je crois, de CFA ou de CFA2.
Il voyait pas le jour.
Et que les mecs avaient dit, il sait pas faire un contrôle, quoi. Donc,
effectivement, c'est plus compliqué, là.
Non, mais. T'as beau être rapide.
C'était compliqué, Pancrate. Pancrate, le ballon, il restait pas. Hein. Il est jamais resté.
Daniel,
il était à 10 mètres.
T'as lu le livre. Il est intelligent.
Voilà. Il était.
Mais oui,
il était à 10 mètres du ballon à chaque fois. Quand il contrôlait.
Fabrice était un bon joueur.
Un joueur correct de Ligue 1. Bon, c'est
bien. Non, tout. Mais
bien sûr.
Allez, on enchaîne.
On va passer à autre chose, là, Jérôme, sans plus.
Mais attends, lis le livre encore. Relis-le.
Tu l'as lu, toi ?
On enchaîne avec la story, messieurs.
Moi, j'ai pas le gros livre, tu sais pas, ça.
Daniel.
Tu me l'as pas ramené.
Oui, c'est quoi la story ? Attends, la story.
Ah, les Russes, la loose des Russes.
La story concerne la Russie, justement. Enchaînons. Moi, j'avais préparé mon truc avec la crise diplomatique qui enchaînait avec la Russie, c'est parti. Oui, parce que la Coupe du Monde est dans moins de 100 jours et dans notre petite story du soir, je voulais quand même vous parler de la loose absolue de l'URSS puis de la Russie lors des phases finales de Coupe du Monde. C'est vrai qu'en 20 Coupes du Monde, l'URSS et la Russie ont un bilan horrible. Bon, aucun titre, on le sait. Zéro finale. Une seule demi-finale en 66. Donc, une seule demi en 66. Pourtant, lors de cette décennie 60, le foot russe est à son apogée. Rappelez-vous, Lev Yashin, seul gardien à avoir reçu un ballon d'or en 63. Alors, la première Coupe du Monde de l'URSS, c'est 58, quart de finale. Jusqu'en 70, là, ils sont pas mal. Quart de finale aussi, c'est solide, mais ça va pas au bout. Et là, la loose commence. 74, URSS forfait parce qu'elle refuse de jouer un match de barrage en Amérique du Sud face au Chili de Pinochet. Vous vous souvenez peut-être pas de ce match. C'est une histoire extraordinaire. Le Chili était sur le terrain. Le stade était plein à Santiago. En face, il n'y avait personne. L'arbitre siffle le début du match. Un Chilien va marquer. Fin du match, merci. Chili qualifié. Pas du RSS au Mondial. C'est génial. Puis vient la CEI, donc, qui joue pas la Coupe du Monde, mais uniquement l'Euro en 92. Et la nouvelle Russie, avec une première Coupe du Monde en 94.
Tu parles de la Coupe du Monde, mais à l'Euro, ils avaient fait la finale en 88.
88. Avec
une magnifique équipe. Hein.
Exactement.
Mais ils tombent sur une équipe encore plus dingue des Pays-Bas.
Exactement. Mais là, la story, équipe. C'est la Coupe du Monde. Donc,
je ne peux pas parler déjà parlé en plus. Et puis
de Kvyatulin et autres.
C'était l'équipe de Kiev principalement.
Et autres d'Assaïf.
C'était le football ukrainien, beaucoup.
Exactement, de Lobanovski. Donc ensuite là, depuis que la Russie existe, c'est la loose. Élimination au premier tour, pas qualifié. Depuis 94, ils n'ont pas passé le premier tour, les mecs. Donc, que va-t-il se passer cette année? On va essayer d'en savoir plus avec un spécialiste du foot russe qui est là. Vincent Tanguy est avec nous. Vincent, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Tanguyev.
Bonsoir.
Non, pas Tanguyev,
Tanguyev, d'accord.
Mais ça aurait pu peut-être. Vincent, je précise que tu collabores à un site qui est ultra performant sur le foot des pays de l'Est. Footballski. Alors, si vous voulez tout savoir sur le Vardar Skopje ou je sais pas le Wisla Cracovie, il y a tout sur Footballski. Est-ce que tu penses Pardon, vas-y Vincent.
Ouais, juste sur tous les pays qui font à l'est de l'Allemagne.
Voilà. Alors, les Russes, tu les vois comment là cette année? Est-ce qu'une nouvelle fois, ça va être le bide total, même chez eux?
Ben, on n'espère pas, évidemment, côté russe. On espère qu'ils vont au moins représenter la nation de manière correcte. Bon, faut dire quand même que en termes footballistiques, on s'attend malheureusement pas à grand-chose. Il faut dire qu'actuellement, la sélection est aussi touchée par pas mal de blessures. Il y a des joueurs qui seront absents. Kokorin, par exemple, qui est un des acteurs majeurs de la sélection actuellement, s'est fait les croisés il y a quelques semaines, donc malheureusement il sera absent. Et puis c'est surtout derrière en fait que ça pose problème. Il y a normalement aussi un certain Victor en fait qui devait être présent, qui est un joueur du Spartak Moscou, mais qui est assez solide.
En fait, il n'y a plus de stars aujourd'hui. La dernière grande star, c'est qui? C'est Arshavin.
Bah oui, il y avait le duo évidemment Arshavin Pavluchenko lors de cette.
Arshavin, c'est l'Euro 2008.
En 2008. Ça. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que depuis, on se cherche un petit peu. On cherche. Alors, on a pensé notamment à Zagoyev au milieu. Mais c'est vrai que on joue entre un peu les joueurs assez vieux. Alors il y a des joueurs solides qui sont partis, hein, les frères Davidovski notamment, ils seront pas présents. Ignashevich aussi sera absent. Donc il faut renouveler toute cette partie là de l'effectif. Et c'est vrai que à quelques mois de la Coupe du Monde, on sait pas trop où on va en fait. Et même Tchelchesov non plus, on sait pas trop.
Bon, donc en gros, ça peut tourner au bide.
Ils ont eu un groupe aux petits oignons.
Même avec ce groupe-là, Daniel, moi, je les ai fait à la Coupe des Confédérations.
Ouais, mais il y aura un arbitrage un peu.
Arabie Saoudite, Uruguay.
Mais ça sera pas simple pour autant. Alors
c'est
oui, ils ont.
Arabie Saoudite, Uruguay et l'autre.
J'ai un trou.
Tanguy, Vincent.
Pardon.
C'est qui la quatrième équipe? Arabie Saoudite, Uruguay.
Il y aura l'Arabie Saoudite, l'Uruguay
l'Égypte,
et
l'Égypte.
Oui, c'est
l'Égypte. Mmh. Bah, ils vont jouer le truc contre l'Égypte.
Ouais, non, mais il y a possibilité. Après, c'est vrai qu'ils ont, ils auront deux, trois bons joueurs techniquement qui sont au-dessus. Il l'a dit, hein, Zagoev. Il y a Golovin aussi, qui a un très bon.
Tout à fait. Je pense que c'est au niveau du milieu en fait. Les Russes sont vont essayer de jouer le jeu. Il y a les frères aussi. Les frères, ils sont jumeaux aussi.
Les deux frangins du CSKA là, qui ont joué contre.
Mélenchuk. Les frères Mélenchuk aussi.
Je les vois sortir de la poule. Je pense qu'ils vont sortir de la poule.
Attention à l'Égypte, hein. Mohamed Salah.
Ouais, mais après sur une Coupe du Monde comme ça, à un moment ou un autre, t'as le petit arbitrage maison pour que tu sortes de la poule quand même.
Ouais, mais
il y a le public aussi. Je pense que le public va aussi jouer beaucoup. L'ambiance aussi, voilà. Je pense que de toute façon, ils
n'ont
pas trop
le
choix.
Le premier match de la Russie, c'est quoi?
Arabie Saoudite, match d'ouverture.
C'est celui-là qui peut tout déclencher. Non, mais même au niveau de la folie là-bas, si la Russie gagne son premier match ou marque des buts, c'est pas ce qui s'est passé sur la Coupe des Confédérations où il y avait. Moi, j'étais surpris des premiers matchs où là, tu sens. Les gens étaient là et tout ça, ils poussaient. Et vu que ça n'a pas été brillant, c'est vite retombé, quoi. Donc, ça sera le risque. Mais de toute façon, pour que le mondial soit réussi, il faut aussi que l'équipe qui reçoit fasse un parcours correct. Si la Russie sort au premier tour.
C'est arrivé. Hein.
Oui, mais je pense que pour l'ambiance là-bas, c'est important de voir la Russie au moins en huitième.
Vincent, merci beaucoup. Vas-y, un dernier mot, tu peux y aller.
Non, juste, c'est vrai qu'on pense aussi à la Corée du Sud qui a fait un beau parcours lors de sa
Avec l'arbitrage maison,
ce serait bien que ce soit.
C'était pas l'arbitrage maison, là.
Tes frères, là, ils nous l'ont bien fait à l'envers.
Merci, Vincent. Bonne soirée.
Ça passe, ça, de nos jours, ce genre de blague, là.
Ça va, parce que
par les temps qui courent, ça passe.
Je suis à moitié coréen, moitié irlandais, donc ça passe.
C'est pour ça que je le dis. Ça aurait été le Japon, non, j'aurais pas dit.
Ah, mais je savais pas, tu m'as jamais dit coréen.
Et si, ça se voit au niveau de. Là,
non, je crois que t'étais Viet Cong.
Non, mais vous êtes n'importe quoi. Allez, un petit quiz, parce que vous commencez tous à fatiguer, là. C'est tout de suite, 32-16, on vous attend pour participer, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
On est là jusqu'à minuit avec Jonathan Macardi, Daniel Riolo, avec Jérôme Breton, avec Christophe, toujours là, Christophe Bourgois, Costantini. Tu vas faire le quiz, Christophe,
avec moi.
On va voir ça dans quelques instants.
C'est bon, c'est gagné.
Juste avant le quiz, t'avais une dernière question à poser à Christophe.
Non. Ah si, sur les champions là.
Non, il dit.
Comment les champions deviennent champions? T'as quand même pas. Vous avez pas dans votre livre la recette pour devenir champion.
Et justement, si je pouvais faire un résumé de tous les gens que j'ai interviewés, c'est parce qu'ils veulent pas devenir champions qu'ils le deviennent.
plus le but est élevé à atteindre, plus le stress arrive. Donc en fait, l'idée c'est d'accueillir jour après jour ce qui se passe. Après, il y a des techniques en coaching pour le faire, ou même. Mais voilà, en fait, devenir champion, ça veut rien dire. Il faut d'abord être le champion de sa propre vie. Si on devient champion de sa propre vie, on a de fortes chances de devenir un champion dans le sport qu'on fait. L'inverse est rarement vrai. Mmh. En tout cas, c'est les 60-70 personnes que j'ai pu interviewer qui ont agi ainsi. Donc être champion.
Attends, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? De d'abord contrôler.
C'était dans la philosophie du lâcher prise, Daniel. Dans la philosophie du tir à l'arc. C'est la métaphore du tir à l'arc. C'est-à-dire que si on se contente simplement de viser le but, de viser la cible, et qu'on le fait parfaitement, il y a quasiment pas de stress. Si on décide de toucher absolument la cible et de mettre dans le, par exemple, le PSG quand ils arrivent.
Ça veut dire qu'il faut avoir une vie, il faut ranger dans sa vie, être équilibré dans sa vie pour pouvoir être un champion, ou je serais réducteur. Est-ce qu'à contrario, il peut y avoir des grands champions qui avaient des vies absolument délirantes, dingues? Il y a que dans la boxe que je vois que ça peut exister. Dans la boxe, ça.
Conor McGregor, il était plombier avant de devenir champion.
Ou même, Jack LaMotta.
La plupart des champions
avaient des vies complètement.
Il y en a certains qui ont des vies, mais ils sont très mal finis. Moi, je parle du champion, de l'homme accompli ou de la femme accomplie. Si à un moment donné, ils deviennent champions parce qu'ils ont cultivé différentes intelligences. Ils sont ancrés, ils sont dans le ici, le maintenant, ils sont dans le lâcher prise. Si on veut devenir un champion, on ne le deviendra pas.
Ça, c'est vrai, ouais.
Si on se dit, je vais tout faire pour, et je vais voir petit à petit.
Dans les pays de l'Est, il y a eu des programmes pour devenir champion. Et dans le tennis féminin notamment, on a élevé des. Les sœurs Williams sont élevées pour être championnes. Dans le tennis féminin, c'est un parcours qui est assez classique. Martina Hingis est élevée pour être championne.
Hingis.
Il y a plusieurs exemples.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui. Non, mais ça veut pas dire. C'est pas parce qu'on élève quelqu'un pour être champion.
Après, est-ce que ça fait des gens équilibrés derrière?
C'est une autre question. Ça mériterait un autre débat. Ouais. Ou un autre échange. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la plupart des champions que j'ai interviewés ont réussi en s'appuyant sur des intelligences très éloignées de ce qu'ils faisaient. Vous prenez Trinduc, par exemple. Fabien Galthié m'a raconté ça. Trinduc, qui tapait. Non, mais. On va prendre Mélina Robert-Michon, médaille d'argent.
C'est un mauvais exemple, Trinduc. Hein. Je l'ai encore là, sur le match de ce week-end.
Mélina Robert-Michon, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio.
En disque.
Elle tombe enceinte, donc déjà, elle a le temps de se poser. Elle se dit, mais comment ça se fait que je suis toujours quatrième, cinquième, etc. Elle tombe sur une étude est-allemande. L'étude est-allemande dit, voilà, il y a quatre critères pour très bien lancer le disque. Il y a celui-là, celui-là, celui-là. Les trois premiers, elle est dans les deux premiers. Trois premiers critères. Le dernier, elle est 10e, 11e. C'est l'angle de trajectoire du disque dans l'espace. Donc, c'est des mathématiques. Comme elle est enceinte, mais qu'on lui a fait croire, comme c'était une sportive, qu'elle était nulle en maths, normal, parce qu'en France, on met dans des cases.
Le fait qu'elle soit enceinte, elle a eu le temps de bosser ça.
Le temps de bosser ça. Donc, elle prend le logiciel, le machin, elle lit tous les bouquins, et elle comprend qu'avec son geste, la trajectoire de son disque n'est pas la bonne. Elle appelle son entraîneur et elle lui dit, pendant que je suis enceinte, j'ai le temps, on va reprendre à zéro mon geste. Et comme dans les trois premiers critères, je suis bon, on va travailler le quatrième. Donc c'est par une approche des maths qu'elle a réussi à devenir... Emeline Donguet, vice-championne olympique de basket, même chose. C'est une nana qui a réussi son parcours de championne en s'appuyant sur les maths, sur la logique des maths. Aussi sur la pulpe de ses doigts.
Mais hein. Rien, mais alors,
donc ça veut dire qu'on peut...
Oh mais t'es cramé, toi.
Ouais, Thierry Marx, quand il fait la cuisine... Hein. C'est ce que j'explique dans les. Bien sûr qu'il fait la cuisine, mais il fait un quand il fait un lièvre à la royale dans sa tête, c'est un oratorio. Il lit ça à la musique plus à la magie des couteaux japonais. Il y a plein d'intelligences qui se mixent.
Pardon,
c'est un peu long.
Non, c'était très bien, Christophe. C'est passionnant. Il y a un autre truc passionnant, c'est le quiz.
Allez, alors.
C'est parti.
Non, mais franchement, c'est vrai que c'est incroyable.
Olivier.
Rien. Okay. Quand vous voulez que je branche, je suis pas un philosophe, moi.
Oui, parce que ça c'est parti un petit peu vite, c'est un quiz QI ce soir, donc on avait mis un sujet Martel. Salut Olivier.
Bonsoir.
Olivier, je te laisse le choix entre l'équipe Daniel, Jonathan ou l'équipe Jérôme, Christophe.
L'équipe QI.
Daniel et Jonathan.
Oh là là.
Olivier avec Daniel et Jonathan, et on a Malik également qui est là. Salut Malik.
Salut
Malik.
Malik, t'es dans l'équipe de Jérôme et Christophe.
Désolé.
On va voir. Bah, attention parce que.
Non, vu la nature du quiz.
Quiz foot et intelligence. Ce quiz s'intitule Foot et intelligence font-ils bon ménage? La réponse est oui, hein, Christophe nous l'a prouvé.
Les deux, j'ai jamais joué au foot, donc normalement.
Attention.
Ah non.
Dites-moi qui parle d'intelligence dans cet extrait sonore.
un minimum de jugeote si ça s'achetait au supermarché.
Jordan, une intelligence, je pense que tout le monde. Geoffrey Jourdain, Jonathan, bien joué.
Ouais, mais ça, c'est. Il est avantagé, il fait les afters du week-end avec la Ligue 1. Oui,
c'est pas cette déclaration de Jourdain qui parle de jugeote. Ah,
tu l'as fait dans le vestiaire.
Non, j'y étais pas.
1-0 pour l'équipe de Olivier. Attention.
Tu n'as même pas ta propre mission.
Je suis un ancien international anglais, récent retraité du foot. Mon QI a été évalué à 170.
Michael Owens.
Alors que celui d'Einstein était bloqué à 160 quand même.
Gerrard.
J'étais milieu de terrain.
Gascogne.
J'ai 109 sélections avec l'Angleterre et j'ai joué l'essentiel de ma carrière à Chelsea.
Lampard.
Franck Lampard. Jonathan.
C'est sûr. Mais
t'as comme t'es en France. Oh là, c'est bon ça.
Tu es 170.
Ouais, Jérôme, allez,
oh. Là, je
suis en feu là.
Ouais. Attention.
Enfin, il est en feu, je veux dire.
De qui parle Jean-Michel Aulas quand il évoque l'intelligence de ce personnage ?
A expliqué souvent à tout le monde qu'il avait la science infuse. Et donc, j'espère pour lui qu'il l'a bien.
Zidane.
Un ancien président qui était son meilleur ami.
Ah, pas Diouf. La Brune.
Écoutez bien cette déclaration qui en dit long sur le football. Qui a dit ça? Écoutez.
La première intelligence, c'est l'intelligence des pieds.
Bah, Filio, là, non?
Francisco Filio.
Oui.
La première intelligence, c'est l'intelligence des pieds.
On n'entend rien.
Elle n'est pas dans ton bouquin, l'intelligence des pieds.
Si, c'est intelligence kinesthésique.
Ah, elle y est alors.
On a pas parlé de ça. Je peux te dire que mon pied gauche est en avant dessus. Hein.
Vas-y. Bah, t'as bonne intelligence kinesthésique.
Ah, bah, c'est clair.
4-0. Pendant ce temps-là. Tiens, écoutez un autre extrait. Soyez attentifs.
D'ailleurs, on disait Platini, même ses pieds sont intelligents.
De qui disait-on?
De Platini. Même ses pieds sont intelligents.
Bah oui.
C'est vrai.
Bon, nous, on s'est mis un défi, c'est de les laisser à zéro, là. Donc, d'un coup, je suis remotivé.
Pas un 7,
je suis motivé, là.
Attention, nouvel extrait sonore. Qui parle?
Ça va nous amener à monter d'un cran et donc amener certains joueurs à également progresser par rapport à la conscientisation de confiance sur leur potentiel.
Genesio.
conscientisation de confiance de leur potentiel. C'est un coach de foot.
Repasse le son plutôt.
La Mouchi.
Actuel entraîneur. Est-ce qu'on peut le repasser?
Attention. Amener à monter d'un cran et donc amener certains joueurs à également progresser par rapport à la conscientisation de confiance sur leur potentiel.
Mais c'est pas génial,
Il a entraîné en France à Dijon, il a entraîné en Afrique, il a joué à Lyon.
Carteron,
Daniel.
Oh là 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 là.
5-0.
Oh là là là.
Waouh.
Allez,
je vais
d'accord.
Attention,
premier set.
Je vous lis une déclaration de Louis Nicolin qui parle d'un joueur, vous devez me trouver qui c'est. C'était en 2012. Nicolin dit, en Ligue 1, le seul joueur qui m'impressionne, c'est lui. C'est dommage, il a rien dans le ciboulot, parce qu'il a un Pastore et un Hazard dans chaque jambe.
Il a dit ça quand?
Il a dit ça d'un joueur qui jouait alors au PSG.
C'est saignant.
Pastore.
Qui a joué également à Sochaux, ce joueur en question, qui a joué en Turquie.
Ah putain.
Ménez.
Ménez, bon. Daniel.
Ça fait
6-0.
1-7.
Moi, je cherchais un mec qui avait joué à Montpellier. Il n'a pas joué à Montpellier.
Il s'exprime mal.
Attention, une dernière déclaration. Peut-être pour le Fanny ou pas. Vous pouvez peut-être sauver l'honneur, là, l'équipe.
6-0, tu veux faire connu comme Fanny.
Qui est l'auteur de cette déclaration?
Fanny, elle est couchée depuis longtemps, Fanny.
J'ai dit un jour que le QI de Paul Gascogne était plus petit que le numéro de son maillot. Il m'a demandé alors, mais c'est quoi un QI?
Lineker.
Mais qui c'est? C'est un Anglais, ça?
Ouais.
Qui a dit ça de Paul Gascogne?
Célèbre pour ses déclarations.
Ah oui, c'est l'autre, là. Putain, je vois qui.
Vas-y, on te laisse, celui-là.
Non, celui qui.
Mais si,
on te
laisse, celui qui a joué à. Un défenseur, je te le laisse, vas-y.
Non, c'est un milieu de terrain.
Comment ça, c'est pas.
C'est un milieu de terrain?
Non.
Non?
Ah bon?
C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du foot anglais.
Tommy Charlton.
Un jour, il a dit aussi, j'ai acheté un pub.
George Best.
Bravo. 7-0.
Bon, pour le coup,
il est anglais, il est irlandais.
7-0.
Oui.
C'est déjà.
Ouais, mais voilà.
Pour le coup, la situation, ça a été ça. Je dis en gros le truc. Le joueur a joué à Montpellier.
Il joue pas en équipe d'Angleterre.
Excuse-moi, l'Irlande du Nord.
Il y a eu Maldon.
Ah non, tu peux expliquer les
règles. Il y a une erreur.
Il jouait pour l'Irlande, il jouait pas pour l'Angleterre.
L'Irlande du Nord. Et l'Irlande du Nord n'est pas l'Irlande, et l'Irlande du Nord est à peu près comme l'Angleterre, surtout dans
voilà,
les. Dans
merci.
T'en passais,
il y a des oui, gens qui sont comme ça. C'était dur à trouver.
À très bientôt.
C'était un vrai plaisir.
Bon, bah, victoire écrasante de Malik, qui
a rien foutu.
Bon, Malik, il était pas avec nous.
Non, Malik. Bah, merci les gars. Merci l'équipe.
Non, Malik, il était avec nous, non?
Victoire éclatante d'Olivier. En fait, t'allais que t'as pas gagné. Pardon, mais j'ai intermerci.
Juste avant de partir,
Olivier, un petit lot de t-shirt de la pour toi, c'est cadeau. On n'a plus le temps.
Super, ah, juste merci, avant de partir, merci, quand même, sur Twitter, une question importante pour Christophe et Rocco Siffredi, quel genre d'intelligence il avait?
C'est pas dans le bouquin.
Kinesthésique.
Allez, bonne nuit à tous. L'after sera là demain soir, dès la fin de France-Colombie, bien sûr.
Ah oui, c'est vrai, on est là demain.
RMC, le super football show, l'after foot.